L'expérience commence. Manon Prigent apprend l'existence de cassettes audio enregistrées entre 1993 et 1996 et qui contiennent la voix de l'artiste plasticienne Louise Bourgeois, disparue en 2010. Ces cassettes sont les archives personnelles et inédites de Maki Xenakis, dessinatrice et sculptrice, fille du compositeur Yanis Xenakis et de la romancière Françoise Xenakis. Dans les années 90, elle prépare un livre avec Louise Bourgeois et enquête sur les lieux de son enfance. Le livre ne verra pas le jour, mais ses échanges, enregistrés à la demande de Louise, témoignent d'une amitié entre deux artistes et de ce qui se tisse entre l'admiration, les sentiments et le travail artistique. La voix de Louise, c'est une expérience de Manon Prigent. La réalisation est signée Nathalie Salles.
Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
Ben, je sais pas, tu fais enregistrement et message après.
Écoute-moi bien.
Je t'écoute.
Faut pas que je me plante, hein.
Non.
J'ai une chance sur 100 d'y arriver.
Vas-y, mais non, moi, je la vois bien, vas-y.
Tu la vois bien?
Vas-y.
Alors, il faut que je lui dise que j'ai tardé à la rappeler parce qu'en fait, ça fait 3 semaines que je suis dedans, que je travaille beaucoup. J'ai fait des découvertes. Non, je recommence. Je l'ai pas appelé parce que je travaillais beaucoup. Oh merde! J'ai fait un travail assez important. Et j'ai l'impression
mais Maki,
d'avoir.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par assez important? C'est très important, Maki.
Mais non, arrête, c'est pas ça que je vais dire. Oui, oui. Oui, c'est Maki au téléphone.
Je pensais à vous, Maki. Comment ça va?
La voix de Louise, Manon Prigent, Nathalie Salles.
She said, it looks. Don't you think it looks a lot like rain? He said, isn't it?
Alors Maki Xenakis, comment elle commence cette histoire avec Louise Bourgeois?
Donc on est à la fin des années 80, et je suis à New York, je suis boursière, donc je peux peindre tranquillement, mais je n'aime plus du tout ce que je fais, je détruis tout ce que je fais, donc je vais dans les musées, essentiellement au départ au Metropolitan, après je m'aventure au MoMA, et puis après je continue à m'aventurer un peu plus dans les galeries. Et là je tombe un jour sur une exposition de Louise Bourgeois à la galerie Robert Miller, où tous les dessins recouvrent les murs de cette galerie. Et à cette époque-là, personne ne connaît Louise Bourgeois. En France, on ne la connaît pas. Et à New York, elle n'est pas du tout encore reconnue comme plus tard. Et je découvre, et ça me fait un choc formidable, où à chaque fois, chaque dessin, où je me dis, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que je cherche. Et les réponses sont là.
Aussitôt que je suis arrivée ici, je me suis mise à avoir le mal du pays, sans le savoir. C'était un mal du pays qui était souterrain.
Louise Bourgeois, par Bernard Marcadet, 1993.
Qui était inconscient et sans savoir pourquoi, je me suis mis à recréer des présences. J'étais sur le toit de la maison, et sur le toit de la maison où personne n'allait jamais, parce que c'était dangereux, il y avait des tuiles qui tombaient, et j'ai recréé tous les gens que j'avais laissés en France. Alors ils étaient massés les uns contre les autres, et ils représentaient tous ces gens dont je n'aurais pas admis, qui me manquaient. Je n'aurais jamais admis ça, mais le fait est qu'il me manquait désespérément.
De faire le tour de la maison m'a fait beaucoup de bien.
Et donc je me plonge dans les livres, dans les catalogues, et là je découvre que c'est pas du tout une fille de mon âge, mais une vieille dame.
Tu avais quel âge à cette époque?
J'avais une trentaine d'années, et elle, à l'époque, elle avait 80 ans. Et je découvre qu'elle habite New York et qu'elle est toujours vivante. Et donc j'en parle autour de moi dès que je peux, et puis j'ai un ami qui me dit « Ah mais oui, mais je la connais ». Alors je lui dis « Bah présente-la-moi ». Il me dit « Oh non, elle a un caractère de cochon, Et je me rendais compte qu'elle faisait peur à beaucoup de gens et que personne n'avait envie de m'aider à la rencontrer. Donc comme je suis un petit peu tenace, comme elle disait, je cherche dans le bottin. Et je trouve dans le bottin Louise Bourgeois, son adresse et son téléphone. Je me dis, ben voilà, je vais lui écrire une lettre. Donc je prends ma plus belle plume, je mets une semaine à écrire des phrases ridicules. « Chère Louise Bourgeois, j'admire votre travail, je vous ai découvert. » Et puis la nuit suivante, je me réveille en sursaut, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment proche de la dépression, même dans la dépression. Donc je faisais des actes un peu incohérents. Et je me dis, j'ai pas mis de timbre sur l'enveloppe, elle va jamais arriver. Puis au bout d'un moment, je me dis, bah écoute, il y a son téléphone là sur le bottin, tu l'appelles. J'ai appris qu'elle avait un assistant qui répond au téléphone, qui filtre les coups de fil. Donc il va filtrer, il va m'envoyer balader, puis voilà. Donc je compose le numéro de téléphone de Louise Bourgeois. Et là, j'entends une voix qui décroche, une voix de vieille dame avec un accent, parce qu'elle parlait anglais. Je comprends que c'est elle, mais comme elle ne se présente pas, je continue à dire, voilà, je voulais savoir si vous aviez reçu la lettre que j'avais écrite à Louise Bourgeois. Elle me dit, mais je m'en fous, moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je lui dis, ben, je voulais vous rencontrer. Elle me dit, me rencontrer? Mais c'est pas simple de me rencontrer. Alors là, je me dis, mon Dieu, mais c'est très mal parti, tout ça. Et là, je m'entends lui dire... Ça venait de moi, mais ce n'était pas moi qui décidais. Oui, mais vous êtes la seule personne qui pouvait me sauver la vie. Et là, j'entends une voix grave qui me dit, mais vous me faites peur. Personne ne m'a jamais demandé une chose pareille. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je lui dis, je suis vraiment désolée, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, excusez-moi. Puis là, il y a un grand silence, puis j'attendais. Et puis finalement, elle me dit, bon... Bah écoutez, rappelez-moi samedi prochain, je reçois le dimanche, et puis on verra.
Ma lutte contre l'anxiété a duré toute ma vie, mais c'était plus ou moins pénible. C'était plus ou moins paisible et pénible. Mon œuvre, ça a été mon moyen de survie. C'est mon œuvre qui m'a évité le suicide. C'est mon œuvre qui m'a permis de me réveiller tous les matins et de me mettre à travailler. Par conséquent, toute la totalité de mon œuvre a été thérapeutique. C'est-à-dire que l'art devient une thérapie.
Et donc après, je me dis, qu'est-ce que je vais lui apporter? J'avais recommencé à faire des petites bonnes femmes dans la feuille d'un papier, mais qui étaient dans le vide, qui n'avaient pas de sol pour tenir. Je les avais montrées à 2-3 personnes qui m'avaient regardée d'un air de dire, t'es complètement folle, quoi, t'es plus artiste. Mais je me suis dit, bon, ben, je vais lui montrer ça. Et je suis venue juste avec ce petit carnet. Et j'arrive, elle était sur son palier, dehors, elle m'attendait. Et là, elle me voit et elle me dit, ah, mais c'est vous? Alors je dis, oui, c'est moi, Maki. Et elle me fait rentrer dans son antre. Et c'était quelque chose de magique, parce que autant ça faisait... Peut-être un an que j'étais à New York et je sais pas comment dire, mais à New York, je retrouvais pas la même lumière, la même consistance des objets. Tout était irréel, il y avait pas de... Tout était en suspension, comme mes petites bonnes femmes d'ailleurs. Et là, j'arrive chez elle, dans son bureau, où il y avait une table, des chaises, des livres, des photos, des dessins, un fouillis total. Et là, je me sens à nouveau chez moi, en France. Enfin, les objets avaient leur position. C'est très étrange comme sensation, je ne sais pas comment l'expliquer. Et elle était réelle aussi, elle était là. Et donc, elle me dit, mais on ne va pas rester plantée là pour l'éternité, à se regarder. Donc, asseyez-vous et montrez-moi votre travail. Donc elle était assez tendue et puis elle se met à tourner les pages en silence.
Ici, toutes ces petites femmes sont comme ça, hein. Pas de blague, ce sont des femmes qui combattent. Mais là, il y a une espèce de breakdown of something et la femme est résignée. Ça a été une partie, une certaine époque, dans les années 70, j'étais un peu découragée.
Oui, voilà, j'étais résignée. Et puis après, j'ai repris du poil de la bête, et puis j'ai recommencé à combattre.
Puis au bout d'un moment, elle me dit mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça représente? Et là, j'étais incapable de lui dire quoi que ce soit. Et alors, je restais silencieuse. Puis elle me dit, mais ça, c'est qui? C'est votre mère? Elle est morte? Alors, ça me remuait dans tous les sens, parce que ma mère, à l'époque, elle n'était pas morte. Mais effectivement, en voyant le dessin, je me disais, mais oui, c'est ma mère. Comment elle le sait? Et c'était bouillonnant de questions justes. Puis à un moment, elle dit, mais c'est extraordinaire, ça. C'est incroyable, ça. Ça ressemble à mon travail, mais vous posez les mêmes questions que moi, mais vous répondez pas de la même manière. Moi, j'étais tétanisée parce que je pensais qu'elle allait m'engueuler, comme tout le monde, me dire « Mais ma petite cocotte, retourne chez toi et fais autre chose, quoi, perds pas ton temps. » Et là, j'étais en train de comprendre que ça l'intéressait. Puis à la fin, elle ferme le carnet, puis elle me dit « Merci beaucoup, Maki. » Merci, de quoi? Elle me dit, ça m'a fait beaucoup de bien de voir votre travail. Et maintenant, je comprends ce que vous me demandez. Et j'ai envie de vous aider à sortir de là.
J'ai connu Louise Bourgeois un petit peu avant Maki, à la fin des années 70 à New York, parce que j'avais ouvert une antenne de la galerie Le Long à New York, qui est toujours ouverte.
Jean Frémont, galeriste.
Donc je la voyais régulièrement. Et j'ai donc certainement rencontré Maki à peu près à la même époque à la galerie. En tout cas, j'étais témoin donc, des relations entre Louise et Maki. Et il y avait une relation assez particulière et assez exceptionnelle. Et ce qui est une belle histoire, parce qu'à au moins 50 ans ou 60 ans de différence entre les deux personnes, c'est quelque chose de relativement rare, ce genre de relation.
Je suis arrivée à 3 heures de l'après-midi et je me souviens, je suis sortie de chez elle à 9 heures du soir. On avait parlé. Elle s'est mise à me raconter sa vie, à me poser des questions sur ma vie. On rigolait, on se racontait des histoires. Elle me montrait des albums de photos de sa famille, de sa mère, de la guerre de 14, de son père en poilu, de l'oncle Désiré. Et donc, quand je sors de cette rencontre première, j'ai l'impression que ça y est, je peux à nouveau vivre et plus être dans le passé, dans la culpabilité, dans l'angoisse, les migraines que j'avais. C'était invraisemblable d'arriver et de tomber enfin sur quelqu'un. Parce qu'il faut bien dire qu'à l'époque, j'étais soutenue par très peu de monde dans mon travail. Et surtout, ma dépression venait du fait que mes parents, qui étaient tous les deux artistes, ne comprenaient rien à mon travail et n'aimaient pas ce que je faisais. Et me le disaient.
Si nous nous sommes rencontrés, que nous avons parlé, en fait, j'endosse, je ne sais pas comment on dit en français, endorsing, qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais pas, je vais regarder dans le dictionnaire, j'en ai un là.
C'est une rencontre qui est devenue l'endorsement.
Et qui s'appuie, voilà.
Non, c'est pas ça. Le sens figuré, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'approuve, c'est ça. C'est ce que vous voulez, c'est une approval.
Ah, approbation.
Ce n'est pas une critique que vous voulez. Mm-hmm. C'est une approbation. Oui. C'est pour ça que j'offre une certaine résistance. Les élèves veulent pas qu'on les critique. Les élèves veulent qu'on leur dise qu'ils sont formidables.
Ah là là, j'étais mal là, hein, parce qu'elle me torturait. Comme c'était par rapport à un texte qu'on m'avait demandé d'écrire sur ma relation avec Louise et ce qu'elle avait dit sur mon travail. J'avais dû lui envoyer le texte, mais là, elle était un petit peu sadique quand même. Mais je pouvais supporter sa violence, quoi, parce que je savais qu'en échange, elle me donnait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'était épuisant.
C'est ça. Louise Bourgeois était un personnage très singulier, dont la première qualité n'était pas constamment la gentillesse ou la sollicitude. pour les autres. Elle pouvait être curieuse, elle s'intéressait aux autres, mais pas forcément et pas toujours de façon aimable ou gentille.
Il faut trouver une phrase d'approbation, qui serait vraie d'ailleurs, que après avoir vu vos dessins,
oui.
Je me suis sentie rassurée, quelque chose de très gentil. Mais je l'ai dit ça, ça m'a fait un bien considérable et j'ai eu l'impression d'avoir plongé mon regard dans une œuvre valide.
C'est ça.
Dans une œuvre valable. C'est pas bien ça, c'est pas un endorsement.
C'est très gentil.
Ben, qu'est-ce que je peux faire de plus?
Mais
ça peut pas être plus gentil que ça.
Non,
je peux pas faire plus que ça.
C'est trop gentil.
C'est ça.
Oui, bon.
C'est ça.
Alors
vous foutez de moi.
Mais non, pas du tout.
Du coup, mes petites bonnes femmes qui étaient recroquevillées dans une toute petite feuille de papier ont pris de l'assurance, se sont redressées, ont trouvé un sol pour s'agripper au sol et pas être en suspension. Et elles se sont mises à nous regarder et à naître, quoi, à prendre vie. Et chaque semaine, j'apportais ces nouvelles petites bonnes femmes à Louise, qui voyait l'évolution et qui me disait « Ah, ça va mieux. Ah, ah bah celle-là, elle va bien, celle-là. Ah, bah, elle est très sympa, celle-là. »
Et je vois ici la cassure. Vous voyez, la cassure, la petite s'est presque cassée à cause de cette souffrance. Et alors, c'est pas la fin. Le printemps revient. La réparation a lieu. Les choses vont s'arranger. L'enfant va grandir et survivre. Et alors, vous voyez, il y a la cassure comme ça et la petite guérison.
De l'eau qui boue, c'est le murmure de l'eau qui chante, c'est le murmure de ta voix qui me remplit de joie.
Mange encore un petit bout de fromage, parce que je vais bientôt partir, sinon ça va vous inquiéter, non?
Oui, il vaut mieux être en avance.
Là, je vais bien en avance.
Jamais. Alors ça, c'est votre fromage favori, non?
Mmh. Déjà, au bout de 2 ans, avec David, on se sentait bien à New York. Il aurait pu avoir un job là-bas. Moi, je commençais à connaître de plus en plus de monde dans le monde de l'art. J'étais tellement bien avec Louise. Mais c'était 88, fin 88. On se disait, si on veut faire des enfants, c'est quand même mieux en France. C'est quand même mieux d'être proche de nos familles. Donc on a beaucoup hésité, puis finalement on s'est dit, allez, on rentre à Paris. Donc quand j'ai prévenu Louise, elle n'était pas contente du tout. Elle s'est fâchée très fort au téléphone, puis après elle s'est excusée, elle m'a offert une boîte de chaussures avec ses propres chaussures. C'était curieux comme cadeau de départ. En plus, elle était petite, donc elle chaussait du 36, moi je chaussais du 38, mais évidemment j'ai pas refusé ce cadeau extraordinaire. Et beaucoup plus tard, j'ai vu que sur la boîte, en plus, elle avait dessiné une femme maison. Donc, c'était tout un symbole, ce cadeau. Parce qu'elle fonctionnait toujours dans les symboles. Toujours, il y avait des tas de situations où elle faisait passer les messages par des manières détournées.
Allô,
bonjour, c'est Maki.
Comment ça va, Maki?
Ça va bien, et vous?
Très bien, merci.
Je vous dérange pas?
Non.
Eh bien, je voulais prendre de vos nouvelles, je voulais vous dire que...
Mais vous savez, comme d'habitude, vous me faites parler, enfin, vous provoquez des souvenirs.
C'est merveilleux.
Non, mais ce qui m'intéresse, c'est une photographie. Mm-hmm. Vous avez une seconde?
Oui.
Plus ça allait, plus elle me disait « Mais moi, j'ai plus envie de venir en France parce que à chaque fois, je suis trop déçue. Il n'y a plus rien qui ressemble à mon enfance, à mes souvenirs, donc c'est trop douloureux pour moi. Mais il y a des tas d'endroits de mon enfance, je ne sais pas ce que c'est devenu et j'aimerais beaucoup savoir. » Donc je lui ai proposé d'aller dans ces lieux et de prendre des photos et puis de lui envoyer les photos, de lui apporter. Et c'est là qu'elle m'a dit « Puisque c'est un travail que nous faisons ensemble, il faut que vous m'enregistriez. » Donc elle a commencé comme ça à me donner des adresses à Clamart, à Antony, toutes les maisons dans lesquelles elle avait habité avec ses parents quand elle était petite fille. Donc je prépare mon plan, je pars avec la voiture, c'était en 90, 91. Je trouve choisi, je me gare, je vais à l'endroit et la maison avait été détruite. Donc j'ai fait tout un montage de photos.
Maki,
oui. Voilà, sinon j'ai des photographies de la maison qui était rue de Prozy.
À Clamart.
Oui, c'est ça.
Oui.
J'avais fait une photo, j'avais trouvé une maison là-bas.
Mais vous savez, ce qu'il y a de nouveau ici,
oui.
C'est que j'ai un fax.
Ah bon ?
Vous êtes familière avec le fax ?
Oui, j'en ai un aussi chez moi.
Vous en avez un chez vous ?
Oui.
Mais alors c'est ça la façon de travailler,
oui.
Qui est efficient.
Je fais aussi des photos à ce moment-là de Anthony et puis Saint-Germain. Donc j'avais fait toute une série de photos des lieux, de son passé, ce que c'était devenu par rapport à ce que je connaissais des photos qu'elle montrait toujours. Donc je vais à New York avec un album fait avec toutes les photos des nouveaux lieux et quelques temps plus tard, je vois qu'elle a fait la pièce de Choisy, le roi, qu'elle monte dans une vidéo d'ailleurs avec Bernard Marcadet.
Lorsque je suis retournée en France et que j'ai cherché la maison, je l'ai cherchée en vain puisqu'elle avait été démolie et remplacée.
Alors ce qui est très drôle dans la vidéo,
c'est
qu'elle dit « Quand je suis retournée à Choisy, j'ai découvert que ma maison avait été détruite et remplacée par le théâtre Paul-Éluard. Et donc le passé est guillotiné par le présent. Et quand on constate que le passé disparaît, cela crée un certain choc, une certaine peine. Donc elle a reconstitué sa maison à partir des photos qu'elle avait anciennes en marbre. Elle l'a mis dans un grillage parce qu'elle était en... C'est une cellule déjà. Et elle a mis une guillotine pour guillotiner l'image de son passé.
Et évidemment, quand on constate que le passé disparaît, il y a un certain choc et il y a une certaine peine.
Ça, elle l'a fait une fois que je lui ai dit que la maison de Choisy avait disparu. Et ce n'est pas pour me mettre en avant, parce que je pense qu'effectivement, la création, c'est... On se nourrit toujours l'un de l'autre et... On est obligé de dévorer l'autre quelque part et de se l'accaparer pour redevenir soi-même et créer une autre forme.
C'est Louise de New York. Maki et David, je voudrais savoir comment vous allez. Est-ce que vous pouvez me rappeler ? J'espère que vous allez bien tous les trois. Merci.
J'ai accouché des filles en fin 92. Donc, elle venait de naître, c'était fin 92. Ben, elle m'appelait pour prendre des nouvelles aussi, donc c'était pas juste ça. Mais tout d'un coup, elle me dit, alors comment ça va, les enfants et les bébés ? Je dis, ben, c'est formidable, mais je dors pas la nuit parce qu'il faut faire les biberons, c'est terrible, mais c'est formidable et tout. Elle me dit, c'est formidable. Maki, j'ai pensé à une chose très importante, il faut absolument que vous alliez au lycée Fénelon. Et là, je reste un peu silencieuse en lui disant « Mais Louise, je vous ai dit, je suis un peu prise là. » Puis là, elle voit que je ne sais pas quoi dire et elle se fâche. Elle me dit « Bon, ben n'y allez pas. Il n'y a que vous qui pouvez y aller au lycée Fénelon. Donc maintenant, vous n'y allez pas, tant pis pour vous, tant pis pour moi, mais c'est votre histoire, c'est votre affaire, je vous le demande, tant pis. » Alors je me dis « Bon, elle a eu des enfants, elle sait ce que c'est. Ce n'est pas un caprice, c'est important. Il faut que je trouve un moyen d'y aller. » Donc, je lui dis, Louise, je vais y aller, je vous préviens quand j'y vais, mais laissez-moi un tout petit peu de temps pour m'organiser parce que je ne sais pas quoi faire de mes bébés. Bon, elle se calme. Et quand je l'avais rappelée en lui disant, c'est bon, Louise, j'y vais demain, là, tout d'un coup, elle a eu pris peur. Elle me dit, mais Maki, même les mouches n'avaient pas le droit d'entrer. Comment vous pensez qu'ils vont vous laisser rentrer dans un endroit pareil ? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut que j'y aille ou elle a peur ? Enfin, c'était bizarre. Et donc, je vais au lycée Fénelon avec un appareil photo. Et c'est vrai que la première fois, j'étais totalement stupéfaite de voir que dans les classes, il y avait encore des tas de vitrines, de classes de sciences naturelles, sciences physiques, chimie, tout ça. J'avais l'impression de retrouver l'ambiance de l'œuvre de Louise. J'avais l'impression d'être dans l'univers de Louise.
Ah, la voilà, la vitrine.
Avec les bocaux vides. Voilà. Ça, elle n'a pas bougé hein, depuis Louise.
Tu peux nous la décrire ?
Bah, c'est une vitrine dans... au fond d'un couloir devant lequel Louise a dû passer. Et il y a des étagères avec des bocaux vides, toutes sortes de formes qui scintillent dans la lumière.
On peut regarder le livre peut-être là.
Donc les œuvres de Louis sont là. Ah, c'est après. Voilà. Et ça, c'est le défi qu'elle a fait en 91. Donc en fait, en 91, elle était déjà en train de faire ça. Et c'est à ce moment-là, en 92, qu'elle m'a demandé d'aller au lycée Fénelon. Donc c'est dans ce sens-là que ça marche. C'est-à-dire qu'elle était déjà effectivement en train de faire ressurgir des formes qu'elle avait aperçues au lycée. Et c'est là qu'elle m'a dit, il faut que vous alliez au lycée Fénelon.
Mais c'est vrai, quand on compare avec le défi là, de 91, c'est incroyable hein, la ressemblance.
Elle a raison, c'est une sculpture. Enfin, c'est une installation. Même si à l'époque, ça n'existait pas, les installations.
Louise Bourgeois était quelqu'un, je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu'un comme ça, qui avait une très grande curiosité intellectuelle, une très grande mémoire de ce qui lui était arrivé dans la vie ou de ce qui l'avait intéressé intellectuellement, même à des époques très reculées, et une extraordinaire mémoire visuelle de ce qui l'avait intéressé. Et c'est évidemment pas surprenant d'avoir retrouvé dans son travail des années 80 des formes venant du cabinet de sciences naturelles de Fénelon où elle avait 14 ans, c'est-à-dire 60 ans après. Elle était très intéressée par les disciplines scientifiques, elle aimait les mathématiques, elle aimait les sciences naturelles, elle aimait la botanique, elle aimait la zoologie.
Voilà, donc là on retrouve le kangourou, les chauves-souris, les animaux empaillés. C'est pas rangé comme c'était, mais on les retrouve quand même. Et puis là on voit les oiseaux, tous ces fameux oiseaux, c'est chouette qu'elle a beaucoup dessiné aussi.
Allô, bonjour, c'est Maki.
Comment ça va, Maki?
Ça va très bien, je vous remercie. Donc, je vous téléphone, je vous dérange?
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Bon, très bien. J'ai été hier au lycée Fénelon.
Yes.
Si vous voulez, j'ai le sentiment que, au départ, c'était un itinéraire que je faisais pour vous, du lycée Fénelon. Et petit à petit, en rentrant dans cet endroit, même malgré les travaux, les démolitions qu'ils sont en train de faire à l'intérieur, je retrouve des atmosphères, des émotions, des objets réels que vous avez connus, qui sont des espèces de passerelles par rapport à vous et votre œuvre, ce sentiment que j'ai de plus en plus. Et c'est absolument...
Est-ce que ça vous a rappelé votre lycée, non?
Oh non, ça me rappelle vous et votre œuvre.
C'est ça.
Complètement.
Maki, comment vont les enfants?
Ah, ça va bien. Ça va très bien. Elle commence à être merveilleuse. Ça va bien.
C'est un grand succès.
Oui.
Très bien, alors.
Je voudrais, si vous avez encore un petit peu de temps, je voudrais vous poser quelques questions.
Oui.
Est-ce que vous voulez bien?
Allez-y. Oui, allez-y.
Je vais vous poser des questions précises à propos du lycée Fénelon, et puis je vais voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne.
C'est ça.
Alors, est-ce que vous vous souvenez du cabinet d'histoire naturelle? De la
oui.
Est-ce que vous vous souvenez maintenant que en dessous, il y avait des globes, des cloches, de verre, avec à l'intérieur des têtes de mort? Il y en avait une en particulier qui était énorme et qui avait comme un espèce de grand éclat de rire, parce que la bouche était ouverte.
Non, ça c'est pas, c'est, ça fait pas partie de mes souvenirs.
Vous ne vous souvenez pas de ça?
Non, pas du tout.
Et dans cette salle aussi d'histoire naturelle, il y a des animaux empaillés, des choses comme ça, ça non plus, ça ne vous
intéresse
pas?
Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que à cette époque-là, ce n'est pas ça que j'étudiais.
Petit à petit, elle s'est mise à m'envoyer des documents du lycée Fénelon, des photos de classe qu'elle avait gardées.
Bon, écoutez, je vais donner ces photographies à Jerry.
D'accord.
Il va vous les xerox.
D'accord.
Il va vous les xeroxer.
Très bien.
Bon, puis on se reparlera. Alors à bientôt.
À très bientôt.
Elle m'a envoyé des tas de documents correspondant à cette époque, en me demandant qu'on échange et que je lui pose des questions et qu'elle réponde ou bien qu'elle dise « là, c'était ça », etc. Parce que c'est vrai que, en fait, on se parlait vraiment beaucoup. Hein. C'était très régulier, quoi. C'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur et qui était dans sa tête vraiment souvent. Donc elle me dit « alors là, Maki, gardez ça secret, n'en parlez à personne, mais nous allons faire un livre sur le lycée Fénelon ».
Lundi 31 mai.
Allô?
Allô, bonjour Louise, c'est Maki à l'appareil.
Comment ça va Maki?
Ça va très bien, je vous remercie. Je voulais vous dire des choses que j'ai évidemment peut-être apparemment un peu de mal à vous dire.
Ça y est, qu'est-ce qui va se passer? Je sais même m'asseoir. Ça va, ça y est, vous allez me faire peur.
Non, je suis calme. Ma voix est calme. C'est que, à propos de ce fameux lycée Fénelon, si ça fait 3 semaines, 1 mois, même plus maintenant que je suis complètement là-dedans, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai retrouvé des choses dans ce lycée qui ne sont pas seulement des ambiances, des atmosphères, mais j'ai retrouvé, il me semble, hein, des objets anciens.
Oui, mais vous ne pouvez pas me resservir l'histoire naturelle parce que je ne prenais pas de cours d'histoire naturelle à cette époque-là.
Oui.
Non, l'histoire naturelle n'était pas un de mes sujets. Je vous ai dit, je faisais des maths.
Oui, mais c'est pas seulement ça. C'était au lycée en classe, quand on passe de la sixième à la terminale, on passe dans ces cours-là, même si on s'y intéresse pas. Vous êtes rentré dans cet endroit-là?
Non, pas du tout. Je ne peux pas réinventer les choses. Les sciences physiques ne m'intéressaient pas.
Il ne s'agissait pas de sciences physiques.
Mais si, bien sûr, l'histoire naturelle est une science physique.
Oui, mais par exemple, tous les animaux en paille.
Non, ça recommence. Ça me fait mal à la tête.
D'accord.
C'est drôle.
D'accord, j'arrête.
À chaque fois que j'essayais de lui parler des objets qui me faisait penser à son œuvre, elle me disait « mais non, Maki, mais non ». Et puis j'insistais, et là elle me disait « soit vous me faites mal à la tête, taisez-vous, soit « mais arrêtez avec vos histoires, c'est une idée fixe, ça suffit maintenant ». Elle faisait un blocage total dès que j'essayais de parler de ça.
Je n'ose pas vous dire des choses, mais par exemple, toujours c'est « vous êtes intéressé par les cloches en verre ».
Non, pas du tout, elle me faisait peur. Mais non, mais je vous dis, mais c'est cette obsession que vous avez.
Mais parce qu'on la retrouve dans votre travail tout le temps. C'est ça? C'est qu'on la retrouve dans votre travail.
C'est incroyable, ça, alors.
Là, par exemple,
Ça recommence. Ah, excusez, sur le secret.
D'accord.
Yes. Ok.
Bon, bah écoutez, je vais voir ces...
Mais c'est de vous que ça parle. Vous parlez de vous-même, vous parlez pas de moi.
Je ne sais pas.
Mais voyons. Bon, je ne veux plus parler. Je ne veux plus parler parce que je vous fais peur.
Non, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses, des sortes de clés, quoi, qui sont oubliées de votre part. Mais il y a constamment des transpositions, c'est recréé. Mais c'est pour dire à quel point le lycée Fénelon peut avoir une telle importance pour vous, et c'est peut-être pour ça que vous m'aviez dit d'aller là-bas. Mais le problème, c'est que peut-être vous ne vous souvenez pas de ces objets-là, mais que vous les ressortez. C'est ça qui est fabuleux, et pour ça que j'essaye de vous le dire maladroitement. Et est-ce que vous avez envie de revoir ces objets que j'ai pris en photo ou pas? Ça, c'est une autre question.
Vous allez tomber sur une... Vous allez faire sauter une mine, là.
C'est fou, quoi. C'est vraiment... Et puis moi, j'étais vachement gonflée quand même. Même si j'étais timide et que j'avais la trouille, j'étais claire, précise. Enfin, je pensais que j'allais être beaucoup plus confuse que ça, mais en fait... Mais j'ai vraiment dû, effectivement, la faire souffrir, quoi. Parce que j'ai été trop loin dans cette question-là. Mais c'est cette manière dont elle résiste, et puis tout d'un coup, elle dit « Vous allez faire sauter des mines, quoi. » C'est...
Vous avez dit quelque chose qui m'a coupé le sifflet. Tout d'un coup, je ne peux plus parler. C'est drôle, ça. C'est parce que vous avez introduit un sujet qui n'est pas mon sujet. Qui est votre sujet?
Alors, oui. Non, mais...
C'est comme ça. Hein.
Elle voulait que j'y aille, mais elle ne voulait pas que je lui en parle. Effectivement, peut-être que si elle m'avait dit « Montrez-moi tout ça », elle n'aurait plus été capable de ressortir tout ça de son inconscient, enfin avec autant de force et d'émotion dans son travail.
Elle te mettait en situation de voir ce télescopage-là, mais ensuite elle te rendait responsable du télescopage qu'elle avait elle-même provoqué.
Mais oui, ça, elle était capable de, de retourner toutes les situations avec une mauvaise foi totale, hein, ça c'est clair. Mais j'étais tellement fascinée par cette femme et par ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait, que j'étais prête à me faire houspiller et tourner dans tous les sens, quoi.
Elle réagissait émotionnellement très fortement à tout, et elle pouvait tenter de dominer, mais elle se sentait aussi facilement et souvent agressée. C'est ambivalent, c'est les deux à la fois. Enfin, elle aimait qu'on s'intéresse à son travail, évidemment, mais elle aimait pas trop qu'on l'interprète, parce que toute interprétation est une réductrice. Et elle cultivait l'ambiguïté. Et donc, dès qu'on avançait une idée, elle avait tendance à prendre le contre-pied.
Alors, vous avez votre téléphone qui enregistre.
Oui.
J'avais quelque chose à vous dire. Ah oui, à un moment, il y a eu une crise. Mais je vous l'ai dit, mais je veux repasser par là-dessus. Il y a une crise de violence de ma part qui m'a valu un zéro de conduite. Et alors j'ai frappé, je vous ai dit, j'ai frappé une élève qui me volait. Et moi, je n'admettais pas ça, vous comprenez? Que si on me vole, je ne suis pas quelqu'un qui va se taire, je vais quelqu'un qui va gueuler comme un putois. Ce que j'ai fait, et ça m'a valu un zéro de conduite. Eh bien, je trouve que l'école fait des injustices aux élèves. Alors, vous m'avez dit là une histoire équivalente dans votre école,
oui,
où quelqu'un avait commis une injustice envers vous.
Mm-hmm.
Oui. Alors, ça marque les enfants.
Oui.
Dans le livre qu'on a fait ensemble, elle voulait vraiment parler de l'épisode du vestiaire, où il y avait un vestiaire avec ses affaires. Elle avait ses livres posés dans son vestiaire. Et elle s'est rendue compte un jour qu'une camarade, entre guillemets, lui a volé. Et donc, elle s'en est rendue compte, donc elle l'a tapé. Puis après, elle était convoquée, et là, elle a eu un zéro de conduite à cause de ça. Donc, ses parents ont décidé de la récupérer chez eux, parce qu'eux, ils ne voulaient évidemment pas qu'elle fasse des études, ils voulaient qu'elle s'occupe de la tapisserie avec eux.
Ça voudrait dire que, pendant plusieurs années, vous n'étiez pas au lycée Fénelon ?
Oui, c'est vrai.
Vous avez arrêté en troisième et vous avez travaillé...
C'est pas, je n'ai pas arrêté, ils m'ont fait arrêter. Ils ne voulaient pas que je continue.
Ah, ils ne voulaient pas que vous fassiez des études.
Parce que ça m'aurait empêché de me marier. J'ai fait les classes entre moi-même, toute seule.
Ah, toute seule?
Oui, et je me suis représentée au Bachot.
Et quand vous êtes retournée alors en 1932, c'est vous qui avez imposé ça à votre famille?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Ils ont accepté?
Ils n'ont pas dû l'accepter parce que j'ai dit je retourne au lycée ou je me suicide.
Et donc elle est restée 2 ans en travaillant toute seule pour pouvoir quand même passer son bac qu'elle a eu. Donc il y a eu un traumatisme quand même par rapport à cette absence de rencontre réelle avec ces objets, puisque... Elle aurait étudié ces objets-là au moment où elle en a été privée.
Et quand est-ce que vous venez?
Ici, je m'arrange avec David.
Parce c'est que ça.
C'est un petit peu compliqué. Et je viens avec les documents.
C'est ça.
Et puis 2 ans plus tard, un jour, chez elle, à New York, je lui montre donc le projet, mais sans les photos du lycée Fénelon en lien avec son œuvre. Et finalement, un jour, elle me dit « Bon, quand est-ce que vous allez me montrer les autres photos, là ?» Donc, je lui montre. Évidemment, j'avais ça dans mon sac. Le parallèle entre certains objets et certaines de ses œuvres.
Ouais. Il y a des burettes et puis il y a une œuvre à moi que vous comparez à la burette.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça,
oui.
C'est ça que je voulais voir.
Oui.
Alors, où c'est ça ?
C'est là.
C'est celui-là.
C'est celui-là.
Ah, il faut que je me dise ça.
Et là, elle commence à feuilleter. Et au lieu de s'énerver, elle rigole. Et à la fin, elle me dit « Mais c'est absolument incroyable, c'est passionnant. Parce que je ne me souviens de rien. » C'est ça qui est formidable.
C'est ça que je veux, moi.
Ouais.
Pour être sûre que rien ne vous a échappé.
Non, non, ça je l'ai. J'ai tout ce qu'il faut de bien. Je vais le réintégrer dans le livre.
Et elle me dit « Oui, on va le montrer dans le livre. » Donc elle était d'accord à ce moment-là.
Et alors, je crois que Thierry va vous donner certaines photographies de... Hein,
voilà. Bon, donc ça vous plaît voir d'autres objets encore ou...
Oui.
Donc, toute heureuse, je rajoute donc les photos du lycée Fénelon face à quelques œuvres d'elle. Je retourne la voir avec le manuscrit pratiquement fini qu'elle avait plus qu'à valider. Mais entre-temps, Jerry n'était plus dans la même situation. C'est-à-dire que Jerry, c'était lui qui était devenu l'ayant droit. Et c'était lui qui décidait des choses.
Le gros catalogue des dessins que Jerry a fait, c'est là que je l'ai trouvé. Je suis très contente que ça vous plaise ce livre alors.
Oui. Parce que petit à petit, ça...
Et c'est vrai qu'il a beaucoup fait pour sa carrière, qu'il l'a fait beaucoup exposer à ce moment-là, que c'est grâce à lui qu'elle est devenue aussi connue. Donc voilà, c'était important qu'il fasse tout ça pour elle. Mais toujours est-il que quand je suis arrivée et que je lui ai montré le manuscrit, elle l'a montré à Jerry, et c'est là que Jerry me dit, j'ai réfléchi, on va croire que Louise n'a rien inventé dans tous ces objets que tu montres de Fénelon, donc tu vas enlever toutes les photos de Fénelon et on va laisser que ses œuvres. Donc je regardais Louise en disant, mais c'est pas possible, pourquoi ? Et Louise m'a dit, il faut laisser faire Jerry. Et là, ça a été pour moi catastrophique, parce que j'avais fait un travail énorme et que pour moi, c'était vraiment... le sujet le plus intéressant du livre, parce que ce qu'elle racontait de son enfance, de ses souvenirs, de ses amis, des cours de musique, tout ça, c'était intéressant. Mais là, c'était fondamentalement intéressant sur le processus de création. C'est très rare d'avoir accès à ça. Est-ce que son idée, c'était effectivement de croire que les gens étaient suffisamment bêtes pour voir un objet en cire du lycée Fénelon face à une œuvre monumentale de Louise en marbre, comme si elle avait copié, mais c'est ridicule. Donc, ou alors c'était un prétexte parce que lui aussi n'avait pas envie que tout d'un coup ce travail-là prenne trop d'importance, parce qu'il n'en était pas propriétaire finalement. C'était moi qui l'avais écrit avec Louise. Et donc, il n'avait pas la main là-dessus.
Enfin, il a été publié avec des images qui quand même racontent ça, mais pas toutes. Il y en a quelques-unes qui ont été, en effet, enlevées, censurées. Je crois que Maki pense que c'est l'assistante de Louise Jerry qui a pratiqué ces coupes. C'est possible, c'est même sûr. Ce qui n'est pas établi, c'est s'il l'a fait de son propre chef ou si c'est Louise qui lui a demandé de le faire. Ça, je ne sais pas.
Et est-ce que tu sais comment ça s'est décidé, le fait que ses enfants ne soient pas ses ayants droit ?
Ben, c'est la loi américaine. En France, les enfants sont les ayants droit de toute façon, quoi qu'il arrive. Et on ne peut pas les enlever de ça. Mais en Amérique, si, on peut le faire. Donc, c'est ce que Louise a fait, parce que probablement, moi je ne connais pas bien l'histoire, mais... C'est vrai que Jerry s'occupait très bien d'elle, s'occupait très bien de sa carrière,
Donc peut-être que, voilà, pour Louis, c'était un choix de se dire c'est plus prudent, que lui, il est plus concerné, il est plus dans le métier que mes fils qui ne sont pas dans le métier, quoi. Mais au niveau du droit moral, c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas pu avoir leur mot à dire, parce que eux, ils connaissaient très bien leur mère, ils étaient très proches d'elle, et ils la défendaient d'une autre manière que Jerry.
Et quelle place il a pris, Jerry, progressivement, pour devenir son ayant droit? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux pour qu'ils prennent cette place-là?
On ne sait pas très bien. C'est quelque chose qu'on... C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de rapprochement entre eux, de relation qui n'existait pas du tout quand moi j'ai rencontré Louise et dans sa relation qu'elle avait avec Jerry. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et qu'on peut supposer, qu'on peut imaginer, mais dont on n'est pas obligé de parler complètement.
Peut-être, Louise, vous pouvez faire un entretien avec Jerry en anglais, je pense que ça serait bien, sur cette relation. Jerry est votre assistant, celui qui s'occupe de votre art.
Non, n'essayez pas de définir Jerry.
Oui, non, c'est un peu difficile. Hein. Un peu difficile. En tout cas, c'est quelqu'un qui a joué ici.
Non seulement c'est quelqu'un d'important, mais c'est aussi quelqu'un de gentil, parce qu'il s'est prêté à ses élucubrations. Il s'est prêté, oui. Il a prêté son corps à ce chose. Oui. Alors, c'est devenu une œuvre d'art qui va aller à Venise, qui est ma dernière statue, ou alors, ce n'est pas une femme qui est hystérique. Ça, c'était une conception du 19e siècle. Au 20e siècle, il y a des hommes qui sont hystériques. Alors, Jerry m'a prêté son anatomie ici, et nous avons cet arc. C'est un homme, et on n'avait pas besoin des bras. Hein. C'est pas la peine de s'encombrer de choses dont on n'a pas besoin. Alors on a coupé les bras, puis on a coupé la tête.
Hein. La relation entre Jerry et Louise Bourgeois a commencé au milieu des années 70. Il a commencé à travailler un peu pour elle une fois par semaine. Et puis ensuite, il est devenu un assistant régulier, permanent, pratiquement tous les jours, sauf le dimanche. Mais à un moment donné, et assez tard dans la vie de Louise... Leur relation a changé et elle est vraiment devenue, alors quel terme employer, j'en sais rien, mais on sentait une solidarité émotionnelle. Enfin, ils étaient physiquement et sentimentalement extrêmement proches l'un de l'autre. Et il suffit de voir comment quelqu'un est assis à côté de quelqu'un d'autre, enfin, que les mains se frôlent ou on le perçoit. Alors, je ne doute pas une seconde que pour quelqu'un d'aussi... particulier et d'aussi sensible sur tous les plans que Louise Bourgeois, cette merveilleuse aventure finale, sentimentale, lui a apporté un regain de créativité, évidemment. Et il est très clair, et on le voit dans certaines œuvres, qu'elle attendait impatiemment le matin que Jerry arrive. Quoi.
Hello?
Allô?
Allô?
Allô, bonjour, c'est Maki.
Comment ça va, Maki?
Ça va bien. Et vous? Je vous dérange?
Non, pas du tout.
Ça va très bien?
Mm-hmm.
Il fait pas trop chaud chez vous?
Si, c'était terrible.
C'est terrible?
Oui. Hein? Oh, oui, ça, c'était vraiment ça.
Ouais.
Maintenant, je suis un peu prise au dépourvu parce que à cette heure-ci, je ne sais pas, Jerry est au Texas, enfin, tout est very strange. Il s'est plein d'orages tout le temps, toute la nuit.
Ah oui? Oui, il doit faire très chaud, je pense à vous. Mm-hmm. Hein, parce qu'en France aussi, il fait chaud, mais c'est jamais aussi chaud qu'à New York. Mm-hmm.
Jerry a été absolument essentiel dans la carrière de Louise Bourgeois. Et à partir du moment où ses forces ont décliné, elle a encore eu une bonne dizaine d'années extraordinairement productives. Elle a travaillé jusqu'à la fin de ses jours, vraiment, tout en étant une personne extrêmement fragile et frêle, complètement à bout de force. Je les ai observés, je les ai vus ensemble. Je ne pense pas qu'il l'ait jamais forcée à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Louis ne se laissait pas forcer, même à la fin de ses jours, il l'a aidée, simplement.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Jerry lui a donné une énergie où elle a eu une énergie créatrice à nouveau très forte. Elle s'est mise à faire les cellules, ou elle s'est mise à faire des tas de nouvelles choses qu'elle ne faisait pas avant.
Et j'ai l'impression qu'il se noue quelque chose entre Maki et Louise. Maki venue chercher auprès de Louise quelque chose comme une sécurité, une reconnaissance, une aide chez Louise, ce qui lui a permis elle de se développer en tant qu'artiste. Et j'ai l'impression que Louise, à la fin de sa vie, pour d'autres raisons, a aussi trouvé dans l'interlocuteur ou dans la présence de Jerry quelque chose qui lui a aussi permis de développer quelque chose.
Oui, oui. Mais alors avec Jerry, c'est flagrant, mais elle a trouvé ça aussi à un autre niveau et beaucoup plus tôt avec Maki. Et alors évidemment, avec Jerry, ça a été à la puissance 10.
Je vous avais demandé si vous vouliez bien qu'on mette quelques petites phrases que vous aviez dites en voyant mon travail.
Ah oui, oui.
Ça m'aurait fait plaisir de mettre ces phrases, mais vous m'aviez dit...
Si vous l'envoyez aujourd'hui, je vous donnerai la réponse tout de suite.
D'accord.
Oui.
D'accord.
Parce que ça marche très très bien, ce fax.
Oui, d'accord, oui. Mais je vais vous l'envoyer alors.
Très bien alors. Toute cette série, il me semble que c'est une recherche sur le thème de la peur. Qui parle?
C'est vous qui parlez.
Et ben alors, c'est pas ça.
Bon.
Alors, il faut le mettre au singulier pluriel.
Oui.
Toute cette série fait part de ma recherche sur le thème de la peur.
Là, il y a un petit malentendu. C'est parce que vous, comme souvent, il y a eu des... Comment dire? Vous avez retrouvé des choses sur lesquelles vous travaillez depuis toujours.
Ben, bien sûr, évidemment.
Donc, vous êtes mis à parler comme ça de vous aussi, mais ça m'a fait tellement plaisir de voir que vous sentiez aussi ce que je faisais et que ça vous intéressait.
J'avais bien conscience que le fait que je parle de Louise Bourgeois dans mon travail, où on pouvait le prendre comme quelqu'un qui utilisait Louise et qui en profitait pour dire « Ah ben moi, je connais bien Louise Bourgeois, nananère, donc je suis importante. » Donc c'était, je voulais surtout pas être dans ce personnage-là.
J'ai pas fait cette démarche-là de vous demander ça d'une manière compliquée, malhonnête ou je sais pas quoi pour me servir de vous. Vous comprenez ce que je dis?
J'ai pas dit que vous...
C'est moi qui essaye de... Non, je sais bien que vous l'avez pas dit, mais c'est moi qui en ai peur. Voilà, j'ai peur de me servir de vous.
Ben, vous avez pas raison, parce que je suis assez grande pour qu'on travaille ensemble.
Bon, c'est vrai que ça me rassurait de savoir qu'elle m'aimait bien et qu'elle avait envie de faire un travail avec moi et qu'on ait des échanges comme ça aussi fréquents, mais je ne voulais pas l'utiliser, parce que voilà, depuis toujours, déjà avec mon père, on dit « Ah bah c'est facile, t'es la fille de quelqu'un de célèbre, t'es la fille à papa, machin », donc ça je connais par cœur, donc je voulais surtout pas que ça recommence avec elle, quoi.
Mais alors il faut dire à ce moment-là, toute cette série, il me semble que c'est une recherche sur le thème de la peur.
Oui.
Alors qui est-ce qui le dit?
C'est vous qui le dites. Sur le travail que je vous montre de moi.
Mais c'est pas ça, vous confondez deux choses. Alors vous pourriez dire, toute cette série qui sont à vous, toute cette série de Maki, me rapporte...
Me renvoie, oui, me rapporte.
À mon travail de 92. À la fin de chacun de vos séries, vous vous apaisez?
Oui.
Ah, ça recommence. À la fin de chaque série, vous vous apaisez? Est-ce que c'est moi qui parle de vous? Est-ce que quoi?
Pour moi, c'était extrêmement important d'être uniquement dans l'authenticité d'une relation et de pouvoir témoigner de ce que cette femme m'avait donné pour le donner aux autres, quoi. C'était pas pour l'utiliser.
Oui, oui, mais je vais vous faire des propositions, alors.
Oui, c'est ça, alors. Faites-moi des propositions, malhonnête. Bon.
À tout à l'heure.
Au revoir.
Au revoir.
À New York, la veille de mon départ, quand je suis arrivée chez elle, elle avait dessiné une oreille, donc très proche de l'oreille que j'avais trouvée à Fénelon. Et puis elle avait écrit une phrase: ce qui compte, ce n'est pas ma voix, c'est ta voix.
Quand tu récites, quand tu parles, quand tu enseignes, quand tu chantes, quand tu pleures, c'est ma vie, la totalité de ma vie, poème à l'aimer.
Quand tu parles, quand tu enseignes, quand tu chantes, quand tu pleures.
Puis elle me l'a dictée, donc je l'ai écrite. Et après elle m'a dit: maintenant vous me dictez à nouveau ce texte et c'est moi qui l'écris.
Tout ça, c'est ta voix. Quand
tu récites.
Donc elle joue toujours avec l'identification, soit de l'autre, soit de soi. Et elle renvoie toujours. En fait, c'est toutes ces passations de pouvoir comme ça entre l'un et l'autre.
C'est celui-là. Quand tu récites. Ensuite, quand tu parles, quand tu parles.
En fait, elle jouait beaucoup à ça, hein, beaucoup plus que ce que je le sentais. Et c'est aujourd'hui qu'avec toi que tu me fais réaliser qu'effectivement, elle passait son temps à jouer. C'est elle qui manipulait les choses et c'est elle qui faisait qu'on ne savait plus qui parlait à qui. Et que c'était en permanence un effet de miroir, quoi.
Alors, c'est un poème à l'aimer. Voilà.
Et donc là, l'aimer, c'est toi ?
Bah, je sais pas parce qu'il n'y a pas de E, donc soit elle a fait une faute d'orthographe, soit c'était pas adressé à moi. J'ai pas osé lui demander.
T'as pas osé rajouter un E ?
Non, j'ai pas fait de faux. Et elle m'a dit, maintenant que Jerry dit qu'il faut pas mettre les photos de Fénelon, vous mettez ça à la fin. Donc c'était comme une manière silencieuse de dire tu avais raison. Mais bon, après, je peux inventer, hein.
Quand tu parles, quand tu parles. Quand tu enseignes. Quand tu enseignes. Quand tu chantes. Quand tu pleures.
La femme de l'anglot est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigotte. Avec son pote, elle dansote.
La voix de Louise, un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Nathalie Salle.
La chamotte est la femme du chameau.
Merci à Jean Frémont, Maki Xenakis et au lycée Fénelon.
La femelle du crapaud. Ouhou.
Merci également à Bernard Marcadet, au Centre Pompidou, à Mathias Théry et à Pascal Tison.
Elle souffrote.
Prise de son, Martin Troadec, Christophe Michou et Andreas Jaffré. Documentation musicale, Antoine Vuillose. Mixage, Éric Villenfin, assisté de Mélodie Esman. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron.
Et puis elle popote.
Ce documentaire a reçu le soutien de la bourse Brouillon d'un rêve.
C'est ça. Il découvre, par exemple, il découvre un vaccin, il découvre et elle dégote. C'est ça. Il parle, elle parlotte. Alors, il tousse, puis elle toussote. Et alors, quand il siffle, n'est-ce pas, il siffle comme un merle. Il siffle comme un merle. Et puis elle sifflote. Puis alors, on entend le merle qui siffle dans les arbres. Elle sifflote. J'ai dit, je vous répète, il vit, elle vivote. Sans dot. Elle se fagote et se chapote et sa culotte comme une cocotte. Charlotte l'idiote, elle vivote. Et puis alors, quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas ? Il vous touche, n'est-ce pas ? Et puis elle touchote. Ça n'a aucun effet. Ouhou.
C'est ça.
Ouhou. Ouhou.
C'est ça. Ouhou.
La femme de l'amigo est une amigotte. La femme de l'anglot est une anglotte. La chamotte est la femme du chameau.
C'est ça.
la crapote et la femelle du crapaud. Ouhou. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouhou. 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 C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouhou. Ouhou. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouhou.